Direct Enjeu Radio, la radio insolite, on est content d'accueillir en cette belle journée du 18 janvier, Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour Alain.
Lionel, si je devais te présenter, je dirais, alors là je vais te faire un peu sourire, que tu es psychanalyste et que tu as écrit un livre, La vie de Dalida, vu par un psychanalyste, puisque le titre du livre s'appelle Dalida sur le divan, c'est bien ça?
Alors non, c'est pas tout à fait ça. Je ne suis pas psychanalyste, je suis artiste et la personne qui a écrit Dalida sur le divan, c'est Joseph Agostini.
Exactement.
Qui est un ami, effectivement, et qui... Voilà.
Alors, juste, ce qui est assez original, avant de parler de ta production pour le théâtre, le résumé du livre, c'est « Chaque être a le livre de sa vie. Un jour, il faut l'ouvrir et regarder dedans. » Bon, monsieur Lionel Danel, à qui ai-je le plaisir? Qui es-tu et que fais-tu dans la vie?
Eh bien, moi, je suis artiste depuis un certain nombre d'années, depuis vraiment pas mal de temps. Je suis chanteur, j'ai fait aussi du théâtre, un petit peu de danse contemporaine. Donc voilà, j'ai plusieurs façons d'être sur scène. Et il y a des spectacles, des concerts, il y a du théâtre musical, des fois des hommages un spectacle de cabaret avec des gens que l'on aime bien, avec plusieurs partenaires, des danseurs, des musiciens, des metteurs en scène, voilà.
D'accord. C'est...
Pas mal de choses différentes dans le répertoire que nous présentons.
Voilà, les circonstances atténuantes pour avoir démarré ce métier, c'est quoi? Il y avait quelqu'un dans la famille qui était déjà dans le domaine? C'est toi qui as découvert...
Non, pas du tout. Ce n'est que mon père et ma mère aimaient bien chanter.
Oui.
Donc j'ai entendu pas mal de chansons quand j'étais enfant.
Ouais.
Ma mère chantait bien, mon père aussi.
Mm-hmm.
Donc voilà, oui, ça m'a certainement la voix. Voilà, la chanson a toujours été présente dans ma vie depuis mon plus jeune âge, c'est vrai. Et les 78 tours de mon grand-père aussi.
Les quoi?
Les 78 tours. Les 78 tours.
78 tours, ça me dit quelque chose.
Ben oui.
Ça.
Oui, c'était l'ancêtre du vinyle, des CD, des USB, tout ça.
Oui.
Donc voilà, c'était charmant tout ça de découvrir.
Ah, mais c'était pas la même chose. Hein.
Non, c'est pas la même chose, mais c'était peut-être aussi la même chose. C'était des gens qui faisaient beaucoup de scènes, qui étaient aussi de vrais artistes, qui se battaient, qui imposaient leur style, leur chanson. Et... Voilà, c'était pas moins bien, c'était des fois quelques fois mieux, des fois moins bien. Il y avait de tout. Voilà.
D'accord. J'allais dire, ta première rencontre avec Dalida, ça date de quand?
Bah pareil, je pense que c'est ma grand-mère, Dalida. C'est ma grand-mère qui aimait beaucoup Dalida.
Mm-hmm.
Puis bon, on l'a passé beaucoup. On est de toute façon tous un peu les enfants de la télé. Alors, surtout
exact.
La génération de notre génération à nous, quoi.
Mm-hmm.
Les 40, 50, 60, etc.
Exact.
Donc, les shows qu'on voyait, les émissions de variété, elles étaient omniprésente comme Claude François, comme pas mal de gens.
Marie-Thil, Gilbert Carpentier.
Voilà, tout à fait.
Mm-hmm.
Donc, et puis bon, c'était toujours des shows très avec des plumes, des paillettes. Il y avait toujours un côté très très joyeux et festif, et qui cachait aussi la forêt de l'autre chanson française, une chanson plus à texte, plus
exact.
Voilà, très différente. Donc c'était bien de découvrir, de toute façon, après, à l'adolescence, cet autre versant de la chanson. Voilà. Mais la chanson populaire est une belle chanson. Voilà, il n'y a pas forcément d'hierarchie. Chaque chanson accompagne des moments de la vie très différents. Donc, Dalida, à certains moments, et d'autres moments, à d'autres endroits. C'est pas la bande originale de notre vie, elle se déroule avec différentes musiques de films, les films de sa vie, voilà.
Exactement, qui marque un instant. Justement, on continue toujours jusqu'au 17 février, le mercredi, à donner la parole au gagnant du concours poésie de Marie-Dene Basse, qui est en Belgique. C'est quoi ton inspiration à toi quand tu te prépares à vouloir faire, à monter une pièce, on va dire, une création?
Alors, pour ce spectacle-là, c'est un petit peu particulier parce que c'est une commande. C'est la commande de mon ami Joseph Agostini, le psychanalyste et aussi homme de spectacle.
Donc il y a un lien avec le livre, donc je n'ai pas dit que des bêtises. D'accord.
Non, il y a vraiment un lien avec le livre, si ce n'est que c'est lui le psychanalyste et moi, l'interprète de ce spectacle-là. J'ai adapté avec l'ami qui m'accompagne et qui accompagne ce spectacle, Alain Klingler, au piano et à la voix. On est vraiment deux comédiens chanteurs sur scène. Voilà, donc sur ce spectacle-là, la source d'inspiration, c'est Joseph qui, m'ayant vu sur scène, m'a demandé de faire ce spectacle, parce que c'est un vrai admirateur de Dalida. Moi, j'aime bien Dalida, mais je ne suis pas un fan. Voilà, c'est la différence, mais j'ai beaucoup de respect, beaucoup de tendresse pour elle. Et je pensais aussi, avant que Joseph me le propose, de faire un spectacle, une version cabaret de Dalida avec les garçons d'honneur qui m'accompagnaient de notre compagnie de cabaret. Et puis Joseph est arrivé, donc voilà, sur ce spectacle là c'est un peu spécifique, disons. Sur les autres spectacles, c'est vraiment des rencontres, des émotions et des envies de couleurs musicales, de chorégraphiques. Voilà, c'est plus du domaine de l'intime et vraiment du journal personnel.
D'accord. Oui, parce que là, Dalida, on a tous une de ses chansons dans la tête. Donc, c'est vrai que c'est...
On a toutes ses chansons, mais c'est un vrai spectacle théâtral. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, mais il y a avant tout un texte qui déroule des choses, qui dit des choses, toujours de façon très respectueuse. On retrouve une parole simple, la parole d'une femme avant d'être la parole d'une star.
Exactement, tout à fait.
C'est important pour nous qui avons adapté le livre. C'était effectivement... donner une vérité qui est une vérité. Je ne dis pas que c'est du tout la vérité, parce qu'il n'y a jamais une, elle est jamais unique, mais c'est une façon aussi de parler simplement de Dalida avec quelques égrenées de quelques chansons qui faisaient référence au texte ou qui s'en éloignaient. Et des choses qui nous tenaient à cœur, et voilà.
Est-ce que là-dedans l'idée est de montrer un personnage totalement différent? Parce que bon, souvent on oublie parfois que les artistes sont aussi des êtres humains qui ont la même vie que toi et moi.
Oui, je pense que ce qui ressort de là, de toute façon, c'est un dialogue entre un psychanalyste et elle. On joue aussi à ça, hein, c'est un jeu de rôle. C'est vraiment le démarrage du spectacle, c'est vraiment un jeu de rôle que l'on découvre en même temps qu'on fait le spectacle, et qui peut être tout à fait inversé d'ailleurs, ce jeu de rôle. Mais oui, c'était montrer des questions et des réponses sur sa vie, sur comment elle a éprouvé les choses, comme, et puis avec beaucoup d'espoir, parce que c'est vrai que c'est une vie qui se déroule avec beaucoup de suicides, hein, les suicides de ces hommes, elle aussi qui tente le diable et qui tente la mort aussi. Mais voilà, donc c'était difficile aussi de... On ne peut pas oublier cette partie-là, c'est pas possible. Mais de faire avec tous ces morts un élan de vie, c'est ce qu'on s'appelle à faire, en tout cas.
Si j'ai souhaité te donner la parole, si je t'ai contacté, c'est que simplement vous êtes en train de lancer les répétitions. Ça date d'il y a une semaine, puisque vous avez démarré le... Ah non, c'était même démarré pour le 11 janvier... Ah oui, 11 janvier, c'est ça, 20h17, oui, et pas 2017, pardon. Vous êtes sur la route du Havre d'Avignon. C'est quelque chose que tu avais prévu de faire, c'est-à-dire de monter un spectacle pour le Havre d'Avignon, ou c'est simplement comme une occasion?
Oui, on devait le faire. Oui. Ce spectacle devait être présenté en juillet dernier à Avignon.
D'accord.
Et puis, et au Théâtre de Bastia. Et donc, finalement, le calendrier est inversé. On le présentera, mais bon, je dis vraiment on le présentera, c'est tout conditionnel. On devrait le présenter normalement le 11 mars au Théâtre de Bastia, mais j'espère qu'il y aura la possibilité de le faire. Maintenant, avec les règles sanitaires, les restrictions, j'en suis pas tout à fait certain. Donc, on espère quand même que la première se fera dans ces cas-là, à Avignon, et que ça sera possible de faire à nouveau ce festival off à Avignon en 2021, en juillet 2021.
Qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un comme toi, le festival off d'Avignon?
Ça représente, je parlais des langues de vie, je trouve que toutes ces vies qui se racontent, qui se chantent, qui se dansent, qui se disent, tout ce mélange des gens qu'il y a à Avignon, même si l'humour a pris un peu trop de place. Moi j'aime beaucoup l'humour, mais je pense que c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Je pense que là, il y a vraiment une déferlante humoristique qui condamne un peu les autres spectacles. Donc, je pense qu'il y a un équilibrage à retrouver. Mais en même temps, si c'est le public qui... Enfin, c'est pas le public. Je pense aussi que on guide pas mal les gens aussi dans cette consommation humoristique, entre guillemets. Il en faut de l'humour. Et surtout, il en faut beaucoup en ce moment. Je pense que les gens auront encore plus envie de rire après. Donc, ce que je veux dire, en tout cas, à Avignon, c'est la fête du spectacle vivant. Voilà, avec des difficultés pour les compagnies de payer tout ce qu'on doit payer, tout ce qu'on fait payer. C'est clair. Et il y a, il y a de plus en plus de spectacles, de moins en moins de public, forcément. Donc c'est compliqué, mais ça reste un joli moment, parce qu'on a la possibilité de jouer un spectacle sur 3 semaines, qu'on sait que le spectacle, quand il démarre et quand il finira, aura fait un sacré chemin, un sacré bout de chemin. Mmh.
Oui, je rappelle simplement, si vous voulez retrouver l'interview de Sébastien Benedetto, qui a été élu lundi dernier et qui a répondu à mes questions mardi dernier, je rappelle qu'il parle en même temps du Œuf d'Avignon 2021, mais il parle aussi du festival de demain, avec justement tout ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en 2019, 1590 compagnies, on était un peu perdus, et moi je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais demandé, mais où est passé l'esprit de Jean Villard ? Voilà, l'avantage de Sébastien, c'est que c'est son père, qui est à l'origine du Festival Œuf d'Avignon. C'est la première fois que tu vas faire Avignon, tu l'avais déjà fait ?
Oh non, je l'ai déjà fait depuis... Je ne le fais pas tous les ans, mais mon premier Avignon date d'il y a 30 ans. Donc 30 ans,
oula.
Exactement 30 ans. Donc voilà. non, je connais un petit peu. Je connais moins bien que d'autres, hein, parce qu'il y en a vraiment des gens qui sont allés très régulièrement. Moi, un petit peu moins, mais de certaines années, on y est quand même de façon très régulière.
D'accord. Bon, je suis sur ta page Facebook, je ne vais pas cacher la vérité, et je suis dans une photo qui est d'un côté jolie et de l'autre côté m'interroge. Elle est jolie parce qu'on vous voit les trois autour d'une table ronde, en train de faire votre premier jour de plateau, donc ça c'est chouette. Mais de l'autre côté, je vois derrière vous une salle vide. La culture, le spectacle vivant, c'est fondamental ou c'est non trois petits points, comme disent certaines de nos élites ?
Les élites.
Je suis gentil quand je dis les élites, hein, parce que...
Des gens qu'on n'a pas forcément élus, enfin je veux dire, les élites, elles se reconnaissent entre elles, mais je ne les reconnais pas forcément. Mmh. Tout ce qui permet de rêver, qui fait rêver l'homme, que ce soit un paysage, que ce soit la nature, une mer, un bout de rivière, un bout de spectacle, voilà, rien ne remplace un échange direct avec le public. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de spectacles en visio parce qu'on ne sait plus trop comment faire pour garder au chaud le public. Chacun fait comme il peut, mais voilà, l'échange direct, la palpitation, le frémissement, la chair de poule, tout ça, c'est irremplaçable. Et aucun écran ne remplace ça. Aucun écran ne remplace la sensation humaine, le côté charnel d'une représentation.
Voilà. J'allais te poser la question justement, ce que tu pensais de ce côté virtuel, entre guillemets, avec des gens qui vendent des spectacles pour qu'on soit tranquillement installé dans son fauteuil à la maison pour regarder la télé ou le PC.
Les gens s'occupent, c'est de la consommation comme une autre. Voilà, c'est pas.
Après, moi, je. Oula.
C'est pas trop mon truc. Je m'ennuie très vite voilà. Devant un écran. Donc, voilà. Maintenant, je ne suis pas la loi. Les gens font comme ils peuvent. Ils sortent de ce désastre comme ils peuvent. Donc, avec les moyens qu'on leur donne, je le comprends aussi.
D'accord. Comment ça s'est passé lundi dernier ? Parce que bon, c'était le premier jour de plateau. Vous étiez là, vous étiez fébrile, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas retourné sur une scène. Comment...
Non, parce que enfin, vraiment, c'est un. Enfin, bon. Moi, j'ai vraiment chanté jusqu'au bout, j'ai chanté jusqu'à la veille du confinement, j'ai chanté même cet été à Avignon, dans le salle où on devait jouer.
D'accord.
Avec Alain, donc il y a eu plein mal de rendez-vous. Dans l'été aussi, j'ai fait des concerts. Donc, la scène m'a pas manqué parce que j'ai pu me débrouiller pour en faire ou pour répéter, pour être avec mes musiciens, avec mes danseurs, tout ça, donc avec mes danseurs, les gens avec qui je travaille en tout cas, ce sont pas les miens, mais ce sont vraiment des partenaires de scène en tout cas. Donc non, j'ai pas eu ce manque-là, mais par contre, sur ce spectacle, là, excuse-moi, c'était notre premier plateau, donc effectivement, il y a l'appréhension de se retrouver de passer de ma petite pièce. On a fait les lectures, on a monté petit à petit les spectacles, à un vrai plateau immense. Et voilà, donc ça, c'était vraiment très bien. Mais c'était aussi un travail qu'on faisait aussi avec la personne qui s'occupe de la mise en scène, Sophie Laiville. Donc, avec une direction d'acteur très précise. Et vraiment, on a appris plein de choses. Et je trouve que toujours apprendre. C'est le meilleur moyen de rester en vie, jeune.
Enfin, jeune. Mais tout à
voilà,
fait.
Je dis, voilà, on peut apprendre. Il faut rien arrêter. Il faut rien pétrifier dans son parcours de vie et d'artiste, en tout cas, c'est bien d'évoluer aussi, de se surprendre aussi, si on peut, de surprendre l'autre et d'être surpris par l'autre.
Totalement, complètement. Et de poser des points d'ancrage. Nous, pour Direct en jeu, la radio insolite, on a posé hier des points d'ancrage jusqu'au 30 janvier. Et tous les jours, à 18h, il y a un rendez-vous spécifique qu'on donne. Alors, je tiens à remercier Bob Sinclair, puisqu'on l'a gentiment copié, puisque Bob Sinclair, au premier confinement, donnait des rendez-vous tous les jours de 14h à 15h, pour qu'on puisse danser, qu'on puisse écouter la musique. Okay. Allez, dernière question. Il faut, pour monter ce type de création, il faut compter un délai de combien ? 1, 2, 3, 4 mois ? Et puis après, il faut aller sur le terrain et, j'allais dire, non pas répéter, mais spectacler. Combien de temps il faut à peu près ?
Pour un spectacle comme ça, je veux dire, il y a une écriture, une réécriture, donc on y a passé beaucoup de temps. Mm-hmm. Maintenant, répétition, je pense qu'il nous faut encore deux, trois semaines de travail, ce qui est prévu. Après, on les étalera suivant les restrictions, la fermeture des lieux culturels, tout ça. Normalement, on joue le 11 mars, donc tout doit être fait avant le 11 mars. On
D'accord.
va terminer et finaliser le projet pour le 11 mars.
Ouais, ça veut dire qu'il faut à peu près un an pour monter. Oui.
Ah, comment ?
Oui, il faut à peu près un an pour monter ce type de spectacle.
Pas un an tous les jours, loin de là.
Oui, non, pas un an tous les jours, mais entre le moment.
Rendez-vous régulier.
Oui, d'accord.
C'est ce que ce projet a demandé, Samy. Il a demandé même plus que ça. Il a demandé presque 2 ans, parce qu'il a été très long à s'écrire, on a beaucoup questionné ce projet-là. Et on arrive là au terme d'un questionnement par rapport au livret, je dirais, au texte, tout ça, aux chansons, au choix, au placement des choses. Là, on a vraiment fait un petit travail d'orfèvre que le confinement nous a permis. Il n'y a pas que du négatif dans le confinement.
Exactement.
Ça a permis une réflexion, donc on l'a utilisé, cette réflexion, jusqu'au bout. Maintenant, il est temps qu'on le joue et qu'on le présente et qu'on trouve le public, en tout cas.
D'accord. On est d'accord que, donc, logiquement, c'est à Bastia, en Corse, que le 11 mars...
Tout à fait.
C'est la générale, la première. Et puis le Verbe Fou, en juillet.
Le Verbe Fou à 13h30 en juillet, du 7 au 31 juillet. Donc voilà, on croise les doigts pour tous ces prochains rendez-vous qu'ils aient lieu.
C'est carrément un marathon, là.
Oui, mais qu'on le transporte. C'est important qu'on transporte le public avec nous. Donc j'espère qu'on aura de l'humain d'un côté comme de l'autre.
Écoute, je voulais te remercier d'avoir donné ces quelques minutes pour expliquer ce projet-là. Donc, si on veut te retrouver, on fait comment ?
Eh ben, le plus simple, c'est ce que tu as fait, c'est d'aller sur Facebook, Lionel Damei officiel, Damei. Voilà, et là il y a plein de vidéos, il y a l'agenda des choses, et puis il y a les différentes créations.
Parfait. Ben écoute, en ce qui nous concerne, on aura plaisir à suivre l'actualité de ton spectacle. Et puis, je pourrais pas venir à Bastia le 11 mars, mais rendez-vous, comment dire, en Avignon, dès le 7 juillet. Merci à toi.